Terre sacrée. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec vous, chers auditeurs, nous allons aborder un sujet tiré de l'Ancien Testament, celui des frères Maccabée et de leur martyr que l'Église catholique commémore le 1er août. L'histoire des sept frères et de leur mère Hanna est relatée dans l'Ancien Testament au deuxième livre des martyrs, qui, avec le premier, se situe entre le livre d'Esther et celui de Job, à la fin des livres historiques. Et ces deux livres des martyrs relatent l'époque où la Judée était sous l'emprise de la dynastie grecque des rois Séleucides, en particulier un certain Antiochus Épiphane. Nous allons y revenir, mais avant tout, chers auditeurs, je vous invite à trouver sur vos moteurs de recherche le tableau que je vais commenter sur ce thème des frères Maccabée. Il s'agit d'une œuvre du peintre Gustave Lassalle Borde, datée de 1852, et qui se trouve dans la ville d'Audierne, dans le Finistère, dans l'église Saint-Raymond. Donc vous pouvez taper Lassalle Borde, Lassalle, L-A-2-S-A-L-E, trait d'union, Borde, B-O-R-D-E-S. Et vous complétez par martyr des sept frères. Et vous trouverez l'œuvre que nous regardons aujourd'hui. En attendant, quelques mots sur le peintre Gustave Lassalle Borde, qui est un peintre gascon, né à Auch en 1815. Il monte à Paris, comme on dit, où, après une formation chez des peintres d'histoire, dont Paul de la Roche, il devient en 1838 le plus proche collaborateur d'Eugène Delacroix, avec lequel il va travailler jusqu'en 1853, c'est-à-dire juste un an après avoir commis l'œuvre que nous allons commenter. Mais à cette date, en 1853, en délicatesse avec Delacroix, il va revenir dans sa Gascogne natale et décorer en particulier plusieurs églises, dont Saint-Nicolas de Nérac et la cathédrale Saint-Pierre de Condom. Gustave Lassalle Borde meurt à Auch en 1886. Revenons à notre thème des sept frères Maccabée. Pour mieux comprendre l'origine de cette tragédie, il faut savoir qu'Antiochus Épiphane, roi donc de la dynastie grecque des Séleucides, menait une terrible persécution contre les Juifs et leurs dieux, car il voulait lui-même être vénéré comme un dieu. Il voulait leur imposer la renonciation au respect du sabbat et à la circoncision, les obliger à l'adoration des idoles et à la suppression de l'observance des règles alimentaires de la loi juive. C'est donc l'histoire de cette famille de sept frères qui s'oppose à l'hellénisation de la société et qui vont subir le martyre le plus cruel, l'un après l'autre, et leur mère en dernier. Cela est relaté au chapitre 7 du deuxième livre des martyrs. Leur croyance en Dieu et leur confiance en son infinie miséricorde vont leur faire passer cette épreuve avec courage, force et espérance dans la vie éternelle. Et c'est pour cela que l'Église de Jésus-Christ va commémorer le martyre de cette famille juive qui vivait bien avant Jésus, puisque l'on situe cet épisode vers 166 avant notre ère, et en raison de leur sacrifice à l'image de la passion du Christ et en précurseur du cortège des martyrs à la suite de Jésus, l'Église, depuis saint Augustin, vers 400 environ, a considéré que ses frères Maccabée était digne de rentrer dans le martyrologe chrétien. C'est effectivement au sein de cette persécution par Antiochus Épiphane qu'est apparue et s'est développée dans le monde juif la foi en la résurrection des morts à la fin des temps. Alors, que voyons-nous sur ce tableau de Gustave Lassalle Borde, daté de 1853 ? Nous sommes en plein romantisme et la scène est très théâtrale. C'est dans un décor de temple, aux solides colonnes cannelées et drapées de rouge, scandées d'arcades, que siège Antiochus sur un trône placé sur une estrade à deux marches. Couronné, drapé dans son manteau rouge et tenant un long sceptre, jambes écartées pour affirmer son pouvoir, le roi Antiochus est entouré de gardes armés de lances, de soldats casqués et de courtisans penchés vers lui pour contempler la scène qui se déroule sous leurs yeux. Nous approchons de la fin du supplice de ses sept frères. Cinq sont déjà morts, leurs corps entassés et enchevêtrés au premier plan. À l'arrière, à droite, le sixième est pantelant dans les bras de deux bourreaux. Et au centre, la mère, Anna, encourage énergiquement son dernier fils, très jeune, à affronter la mort violente déjà subie par ses grands frères. Ce dernier, encore enfant, légèrement déhanché, un linge blanc autour des reins, lève les yeux vers le ciel ainsi que sa main droite. Il implore la miséricorde divine, tandis que sa mère, prenant la main gauche de son fils sur son cœur, le presse de se comporter à l'égal de ses frères. Vêtu d'une ample robe vert foncé, elle est courbée vers son garçon dans une grande enjambée, le bras gauche projeté vers le ciel. Le texte du deuxième livre des martyrs nous précise qu'elle adresse à son jeune fils une exhortation dans sa langue maternelle, évidemment incompréhensible aux oreilles d'Antiochus et de son entourage. Voici le texte, au chapitre 7, versets 27 à 29 du deuxième livre des martyrs. Elle se pencha vers son fils et, mystifiant le tyran cruel, elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses pères. « Mon fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre et vois tout ce qui est en eux et sache que Dieu les a faits de rien et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. » Fin de citation. Et le petit Marcel, car il s'appelle Marcel, va s'adresser au roi Antiochus de façon exaltée. « Qu'attendez-vous ? Je n'obéis pas aux ordres du roi. J'obéis aux ordres de la loi qui a été donnée à nos pères par Moïse. » Et le texte précise qu'Antiochus, ayant pensé à tort que le petit dernier serait facilement docile à ses injonctions, rentre dans une colère épouvantable et sacrifie ce jeune garçon plus cruellement encore que ses frères. À la suite de quoi, leur mère, qui les a vus souffrir et mourir un par un pour Dieu, va mourir à son tour et les retrouver au ciel. Alors ici, je me refuse à décrire dans cette émission les tourments subis par cette famille. Le texte donne quelques précisions horribles qu'il est inutile de rapporter ici. Chaque garçon, à son tour, va s'adresser à Antiochus avant de mourir. Le premier, dénommé Abim par l'exégèse biblique, clame ces mots rapportés par saint Augustin. « Nous vous dirons hautement que nous sommes serviteurs du vrai Dieu et que nous mourrons plutôt que de transgresser sa loi. » Antoine, le deuxième, évoque la vie éternelle. « Vous nous ôtez la vie par le pouvoir que Dieu vous a donné. Mais ce souverain juge des vivants et des morts nous la rendra un jour avec avantage, puisque ce sera pour vivre éternellement et ne plus mourir, parce que nous la perdons que pour le soutien de ses saintes lois. » Gourias, le troisième, offrit les membres de son corps supplicié. C'est du ciel que je les ai reçus. J'en suis redevable à Dieu qui me les a donnés. Ainsi, je les livre et les perds de bon cœur pour l'observance de ses commandements, assuré qu'il me les rendra heureusement changés et devenus incorruptibles. Allusion, bien évidemment, à la résurrection des morts. Éléazar, le quatrième, renchérit et précise les paroles de son frère. « Il nous est bien plus avantageux de mourir par vos mains pour ressusciter un jour d'une résurrection glorieuse que de souffrir ce que vous endurerez alors pour vos crimes. » Et il promet l'enfer éternel à Antiochus. Eusébon, le cinquième des frères Maccabées, parle au roi Bourreau de l'avenir de la nation juive que Dieu va préserver. Ne pensez pas, en nous voyant livrés à votre cruauté et exposés à vos supplices, que Dieu ait abandonné notre nation. Attendez un moment et vous verrez comment sa puissance infinie nous relèvera et vous châtiera avec votre postérité pour la grandeur de vos crimes. Hakim, le sixième frère et avant-dernier, rempli de l'esprit de prophétie, comme dit saint Augustin, apostropha Antiochus. Ne vous trompez pas, misérable. Dieu, qui nous a soutenus d'une manière admirable au milieu de tant de tourments, saura bien vous châtier à votre tour, non pas en père, comme il nous a châtiés, mais en juge sévère qui vous fera sentir ce que c'est que de combattre contre lui. Marcel, le septième et petit dernier, va clore cette tragédie en assénant à Antiochus les vérités de ses convictions. Celui qui nous châtie nous sera bientôt propice, et nous ayant réconciliés avec lui par sa bonté, il nous remplira de ses bénédictions et nous relèvera de notre humiliation. Dieu voit vos crimes et a la possibilité de vous châtier. Mes frères jouissent maintenant d'un parfait repos dans l'attente de la vie éternelle. Et il va mourir avant sa mère, qu'il les aura tous vus souffrir et mourir sous ses yeux. Antiochus va ensuite profaner et piller le temple de Jérusalem, en y plaçant une statue de Zeus en particulier. Et un autre membre de la famille Maccabée, fils de Mattathias, Judas Maccabée, va reconquérir les lieux saints et procéder à la purification du temple, date de la fête de la dédicace, Hanouka, toujours célébré par les Juifs, à ce jour, en décembre. Cette émission sur le martyre des sept frères Maccabées et de leur mère est terminée. Je vous remercie de votre précieuse attention. Merci également à Maëlle, qui était à la technique aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur les arts sacrés. Les programmes continuent sur Radio Présence. À la semaine prochaine, au revoir.
Arts sacrés. Arts sacrés, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille. Thank you.